Le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. À la une de l'actualité, une nouvelle journée de perturbations synonyme de pagaille dans les gares de France. En ce jour de départ en vacances, conducteurs et contrôleurs ont en effet décidé de prolonger leur droit de retrait après l'échec des négociations hier soir entre syndicats et direction de la SNCF. L'actualité à l'étranger avec ce nouveau vote des députés britanniques sur le Brexit aujourd'hui à Londres et retour sur une nuit de violence à Barcelone où les manifestations des indépendantistes catalans ont dégénéré. À suivre, la nouvelle condamnation en France des époux Balkany, tous deux ont décidé de faire appel et ce couac dans les services d'urgence pédiatrique des hôpitaux d'Île-de-France, certains se retrouvent dépourvus d'internes. À 8h10, le journal des sports présenté par Amaya Cazenave avec au sommaire du rugby et les quarts de finale de la Coupe du Monde, du football et de la voile. Enfin à 8h20, vous parlerez budget en compagnie de votre invité Eric Delvaux.
Oui, Olivia Grégoire, la députée de La République En Marche de Paris, elle est aussi vice-présidente de la commission des finances. On va effectivement commenter le projet de loi de finances 2020.
France Inter.
Cela ne s'arrange pas. La SNCF, fortement perturbée depuis hier matin, le trafic des TER en région, mais aussi du Transilien et des RER en région parisienne, ne risque pas de s'arranger ce samedi, jour de départ pour les vacances scolaires de la Toussaint. Depuis que contrôleurs et conducteurs ont fait valoir leur droit de retrait jeudi soir, après cet accident dans les Ardennes qui a fait plusieurs blessés, dont le conducteur du train, la situation n'a guère évolué. La réunion direction syndicat qui a eu lieu hier soir au siège de la SNCF n'a rien donné. Les deux parties sont restées sur leur position. Et ce mouvement, qui a déjà entraîné une certaine pagaille dans les gares, va donc se poursuivre, Raphaël Ebenstein.
Ça a été vécu comme la goutte d'eau de trop, confie un responsable syndical. Et la direction de la SNCF n'a pas pris la mesure de l'émotion en interne. Il faut dire que le système des EAS, les équipements agents seuls, qui permet de faire circuler un train sans contrôleur, n'a rien de nouveau. Déployé de longue date en Île-de-France, étendu depuis plusieurs années au TER, évidemment validé par l'établissement public de sécurité ferroviaire, l'autorité en la matière. Mais l'accident dans les Ardennes est survenu dans un contexte tendu, très particulier, avec la perspective d'une grève dure au mois de décembre contre la fin annoncée des régimes spéciaux de retraite, un an et demi après une autre grève historique contre la réforme ferroviaire qui a laissé les cheminots très amers, et alors que l'entreprise est en pleine transformation interne avant l'ouverture à la concurrence fin 2020, génératrice de beaucoup d'inquiétudes et d'efforts de productivité toujours plus importants. Autant dire que l'une des premières missions de Jean-Pierre Farandou, le nouveau PDG de la SNCF en fonction à partir de début novembre, sera sans doute de rétablir un climat social plus apaisé. Pas une mince affaire.
Alors, quelle est la situation ce matin dans les gares? Illustration à Paris, où nous retrouvons gare Montparnasse, Farida Noir.
Eh bien, ça devient compliqué ici à la gare Montparnasse avec deux premiers TGV supprimés à destination de Rennes et de Brest. Ils devaient partir à 7h40. Ce n'est qu'une fois installés que les passagers, eh bien, ont appris qu'il n'y avait pas de conducteur dans leur train pour ce jour de départ en vacances. Sur le panneau d'affichage, les autres trains sont annoncés au départ. Les Ouigo, eux, sont supprimés. La SNCF l'a annoncé dès hier sur son site internet et indique que les voyageurs seront remboursés. Trois TGV Inuit sont annoncé ici à l'arrivée avec un petit peu de retard. Au niveau des Transiliens et des TER, à part un train pour Chartres, eh bien les trains circulent. C'est sur ces lignes hier que les voyageurs ont connu un vendredi noir. Reste à savoir eh bien comment se passera la suite de la matinée puisque les négociations entre la direction et les syndicats ont échoué. À la gare Montparnasse, Sandrine Mahalon, Farida Noir pour France Inter.
Et d'un point de vue plus général, sachez que plusieurs TER ont été supprimés à Chartres, Tours, Bordeaux, La Roche-Migène, Troyes ou bien encore Saint-Dizier. Côté TGV, aucun train Ouigo en Provence-Alpes-Côte d'Azur et à Toulouse. 9 TGV sur 10 dans le sud-est de la France et région atlantique. Trafic normal en revanche dans le nord et l'est. Cette situation dans les gares à Paris et un petit peu partout en France. Nous y revenons dans le journal de 9h.
Dans l'actualité de ce samedi également à l'étranger, il y a le vote au Parlement britannique sur le Brexit. Il y a aussi des scènes de guérilla urbaine la nuit dernière à Barcelone.
Oui, alors en ce qui concerne le Brexit, c'est donc à partir de 10h30 ce matin, heure française, que les parlementaires britanniques vont se réunir afin de se prononcer sur ce nouvel accord conclu entre Londres et Bruxelles pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et ceci 12 jours seulement avant la date prévue de cette sortie, sans concession. Un vote historique dont l'issue reste toutefois incertaine, en sachant que les députés britanniques ont déjà par trois fois rejeté les précédents dans un corps. Et puis donc, cette nuit de violence à Barcelone, où les Catalans ont été 500 000 à défiler hier soir dans les rues de la ville, défilé suivi d'affrontements avec la police et d'émeutes auxquelles vous avez assisté, Thibault Lefèvre.
Oui, avec ce matin du mobilier urbain à terre, des dizaines de vitrines brisées. C'est le cœur historique, le centre touristique de la ville qui est le plus touché. Jerry est américain, il arrive tout juste de Pittsburgh.
C'est une honte ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vandalisé. Ils doivent trouver un accord gagnant-gagnant. Demandez au président Trump de venir aider. Il a trouvé un accord gagnant-gagnant entre la Turquie et les Kurdes. Vous avez besoin de quelque chose de positif.
Car hier, des centaines de jeunes ont affronté pendant au moins 5 heures les forces de l'ordre, jettent pierres, barricades en feu, avec beaucoup de militants anticapitalistes, mais aussi des indépendantistes très remontés comme Raquel, la vingtaine. Elle affirme ne plus avoir peur de la violence.
Ce qui me fait peur, c'est d'avoir perdu mon putain de droit de vote et de laisser à ces connards mon pouvoir de décider. Personne n'a rien obtenu de manière pacifique. Sinon, les femmes ne pourraient toujours pas voter et les homosexuels ne pourraient pas sortir dans la rue.
Le calme est revenu dans la nuit. Le Premier ministre Pedro Sanchez a promis hier une réponse judiciaire forte à ce qu'il appelle désormais l'indépendantisme violent.
Thibault Lefèvre en direct de Barcelone, accompagné de Yves Lehors pour les moyens techniques.
Retour en France où les époux Balkany ont de nouveau été condamnés hier pour blanchiment.
Déjà condamné à 4 ans de prison pour fraude fiscale, peine qu'il effectue actuellement à la prison de la Santé, le maire de Levallois-Perret s'est donc vu condamné hier à 5 ans de prison supplémentaire, cette fois-ci pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, mais sans délit de corruption, ainsi qu'à une inéligibilité de 10 ans, tout comme son épouse Isabelle Balkany, qui elle s'est vue condamnée à 4 ans de prison ferme, mais qui n'a pas été incarcérée en raison de son état de santé. Une nouvelle peine pour laquelle les époux Balkany ont fait appel suspensif, qui leur permet donc de pouvoir, pour le moment, se présenter aux prochaines élections municipales de mars prochain, Cécilia Arbenin.
En s'accrochant au pouvoir avec un casier pareil, Balkany donne une piteuse image de la politique et de notre ville, se lamente Arnaud de Courson, élu divers droite.
Bien sûr que la loi lui permet d'assurer la gestion des services communaux. Maintenant, il y a une forme d'indécence. De toute manière, ils ont 10 ans d'éligibilité, ils ne pourront pas gouverner.
Les connaissant, ils sont capables de faire campagne comme si de rien n'était, pronostique Anne-Eugénie Faure, présidente du groupe socialiste Europe Écologie Les Verts au Conseil municipal.
Alors, moi j'ai déjà fait campagne contre eux, ils étaient en pleine force de l'âge, c'était effectivement particulièrement brutal, les tentatives d'humiliation. Alors vous savez, quand vous êtes opposante à Patrick Balkany depuis 12 ans, ça glisse sur vous comme sur les plumes d'un canard. Donc moi je suis pas du tout essorée, maintenant je ne serai pas candidate aux prochaines élections, et je considère qu'être élu, et ça les Balkany devraient l'entendre, ce n'est pas une profession à vie.
Mais la donne a changé, annonce avec aplomb l'audacieuse marcheuse Maude Bréjon, 28 ans.
Qu'il puisse ou pas se représenter, qu'il puisse le faire depuis Levallois ou depuis une cellule, c'est absolument pas le sujet. C'est des agissements en matière d'éthique qui aujourd'hui ne sont pas acceptables.
Elle espère capitaliser sur les bons scores des élections européennes. En mai dernier, avec plus de 37% des voix, la liste Renaissance, soutenue par les macronistes, avait surclassé celle des Républicains.
Et seule la décision de la Cour d'appel pourra mettre fin, ou pas d'ailleurs, à la candidature des deux époux en se prononçant sur les condamnations d'inéligibilité à 10 ans.
L'actualité, ce sont aussi les conséquences d'un couac au niveau de la répartition des internes dans les services d'urgence pédiatrique des hôpitaux de la région parisienne.
Oui, révélé cette semaine par une vingtaine de chefs de services pédiatriques en Ile-de-France, c'est l'histoire d'une répartition à dormir debout. Alors que certains hôpitaux de la région parisienne vont se retrouver à compter du 4 novembre avec pléthore d'internes en formation, d'autres hôpitaux, en revanche, vont en manquer cruellement pour toute la période de l'hiver. Une situation intenable à laquelle l'Agence régionale de santé tente de trouver une solution, Véronique Julien.
Le paradoxe dans cette affaire, c'est que si une dizaine d'hôpitaux de la Grande Couronne se retrouvent dépourvus d'internes en pédiatrie, d'autres hôpitaux plus proches de Paris en ont plus qu'il n'en faut. Une situation ubuesque pour le docteur Arnaud Chalvon. Il est chef du service de pédiatrie de l'hôpital de Marne-la-Vallée.
Vous avez les services de la Petite Couronne où ils ont 14 internes. Alors que normalement, ils en ont besoin que de 8.
À l'inverse, Meaux, Pontoise ou Arpajon n'ont qu'un interne ou deux pour gérer l'hiver. Face à cette situation, impossible de demander aux internes de refaire leur choix. Certains pourraient intenter une action en justice pour s'en plaindre. L'Agence régionale de santé va donc tenter de s'appuyer sur le volontariat. Elle va demander aux internes en surnombre dans certains hôpitaux d'accepter un changement d'affectation. Et elle sera prête pour les convaincre à sortir le porte-monnaie, explique Didier Jaffre. Il est directeur de l'offre de soins à la RS Île-de-France.
Un interne qui avait choisi Créteil et qui décide d'aller faire son internat, donc de 6 mois à Évry, verrait sa rémunération augmenter autour d'un tiers.
Une quarantaine d'internes pourraient être concernés, mais rien ne dit qu'ils accepteront d'aller en Grande Couronne, à 70 km de Paris. L'agence régionale de santé espère en tout cas régler le problème d'ici le week-end prochain.
Véronique Julia, et puis je vous rappelle donc cette information que nous développions en début de journal, ce trafic à SNCF encore très perturbé ce samedi, premier jour des vacances scolaires de la Toussaint en France. C'est ce qu'annonce la SNCF, et ceci en raison du droit de retrait exercé par des conducteurs et des contrôleurs après cet accident survenu dans les Ardennes mercredi dernier. C'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie d'Éric Delvaux.
C'était le journal de Serge Martin.